Bitcoin, c'est la première et c'est la dernière des crypto-monnaies. J'ai découvert Bitcoin pour les mauvaises raisons. Clairement, c'était l'appât du gain. Je voyais bien que c'était quand même quelque chose qui avait beaucoup de potentiel, même si je comprenais pas tout au début. Rapidement, c'est vraiment l'aspect technologie et aussi révolution sociétale que Bitcoin pouvait apporter qui m'ont intéressé. Voir Bitcoin que sous l'aspect placement financier, c'est vraiment voir la partie énergétique de l'aspect.
Ouais, c'est une vision limitée de tout ce que peut apporter Bitcoin.
Voilà, exactement. Pour moi, Bitcoin, c'est la séparation de l'argent et de l'État. On a une monnaie qui est totalement indépendante, qui n'est contrôlée par personne et par tout le monde en même temps, en fait. C'est complètement bouleversant et je pense qu'on est vraiment au tout début de ce que Bitcoin peut réaliser. On redonne le pouvoir à l'individu sur la façon dont il gère son argent, tout simplement.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir dans le Bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, on va plonger dans une discussion fascinante sur Bitcoin, ses fondamentaux, ses innovations technologiques et l'avenir du Bitcoin comme réserve de valeur, moyen de paiement et monnaie plus globalement. Avec une question que beaucoup de gens se posent, est-ce que le Bitcoin sera la monnaie du futur? Pour enrichir notre conversation sur ce sujet, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Gilles Cadignan, un véritable pionnier dans l'espace du Bitcoin. Gilles est le cofondateur de Wallit, une entreprise innovante qui se focalise sur la minimisation de la confiance numérique en utilisant la technologie d'horodatage de Bitcoin. Gilles a une implication profonde dans la communauté Bitcoin depuis 2013. Il a notamment traduit le livre Mastering Bitcoin d'Andreas Otonopoulos en français. Il enseigne l'introduction à Bitcoin et à la blockchain à l'Université de La Rochelle. Il a plus récemment cofondé Brace Bitcoin pour éduquer et promouvoir Bitcoin en Bretagne. Gilles apporte une perspective éclairée et une expertise précieuse à notre discussion. Gilles, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous ici.
Merci beaucoup.
Je te remercie d'ailleurs doublement parce que je sais que tu as fait l'effort de venir depuis Rennes et que tu es venu aujourd'hui exprès pour enregistrer l'émission. Est-ce qu'on pourrait commencer par te présenter un peu, si tu peux nous parler plus en détail de ton parcours et jusqu'à ce qui t'a amené à créer Wallit?
Bon, alors tu m'as bien présenté. Je suis présent en fait depuis 2013, où j'ai découvert un peu Bitcoin par hasard sur un forum de poker, pour être précis. Et c'est un sujet qui m'a tout de suite passionné. Donc je suis directement rentré d'abord par le minage. Et puis après, j'ai essayé de comprendre un peu mieux comment fonctionnait la technologie. C'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu tout ce que faisait Andreas Antonopoulos et que je me suis mis tout seul dans mon coin à traduire Mastering Bitcoin. Et puis, j'en ai parlé à Andreas. Et en fait, on a fini de façon collaborative la traduction à plusieurs. J'étais un peu administrateur, coordinateur de la traduction. Et puis, du coup, j'ai appris techniquement. Et puis, à côté de ça, j'avais des idées d'entrepreneuriat. Donc, je cherchais des idées, on va dire, concrètes pour explorer cette technologie. Contrairement à Bitstack, on n'est pas allé sur l'aspect financier parce qu'on anticipait un peu des problèmes, de compatibilité avec la régulation, avec les banques, que ça allait être compliqué. Mais on a vu qu'on pouvait faire d'autres choses que l'aspect financier. Donc, on est parti sur la confiance numérique. Et on a cofondé Wallit en 2016, donc voilà, où j'étais président et cofondateur. Et aujourd'hui, Wallit s'est fait racheter par la société Layer cet été. Et du coup, je continue à être impliqué dans le produit. J'ai intégré cette société pour continuer à être, on va dire, head of product de Wallit. Et puis, à côté de ça, je monte aussi une société de conseil dans le Bitcoin, qui va accompagner les entreprises pour vraiment, encore une fois, de façon très pragmatique, trouver des vrais cas d'usage, à la fois pour le transfert monétaire, pour les micro-paiements avec Lightning et aussi sur la confiance numérique. J'ai roulé ma bosse un peu dans l'univers Bitcoin depuis plusieurs années et depuis à peu près 2017, je suis quand même assez focus exclusivement sur Bitcoin, même si je connais un peu tout l'univers crypto en général.
Ok, j'ai pas mal de choses sur lesquelles je veux rebondir et j'aimerais aussi, après, que tu nous expliques un peu plus ce que vous faites chez Wallit, enfin, et maintenant avec le rachat. Mais avant ça, tu m'as dit donc, que tu as découvert Bitcoin sur un forum de poker. Qu'est-ce qui t'a fasciné, si même je peux dire, au début, ou qu'est-ce qui t'a intéressé? Quel aspect de Bitcoin t'a intéressé le plus?
Alors, j'ai envie de dire que j'ai découvert Bitcoin pour les mauvaises raisons, mais un peu comme pas mal de gens, j'ai l'impression. Donc, clairement, c'était l'appât du gain. Donc, à la base, je voyais bien que c'était quand même quelque chose qui avait beaucoup de potentiel, même si je ne comprenais pas tout au début. Et dans le forum de poker en question, c'était dans la section placement financier. Voilà, qui était souvent réservé aux joueurs gagnants, hein, qui donc avaient de l'argent à placer. Du coup, ça m'a intéressé pour ça. Et même un peu après, quand j'ai commencé à miner, ben, c'était des altcoins à l'époque, puisque déjà en 2013, c'était difficile de miner du Bitcoin si on n'avait pas d'ASIC. Ben, je suis rentré dans le trading des crypto-monnaies, mais ça a duré en fait que quelques mois, je dirais bien 6-8 mois. Parce que ça m'a rapidement ennuyé. Alors peut-être parce que je ne suis pas très bon trader, mais rapidement, c'est vraiment l'aspect technologie et aussi révolution sociétale en fait, que Bitcoin pouvait apporter qui m'ont intéressé. Ce serait mentir aujourd'hui de vous dire que je ne suis pas du tout intéressé par le prix du Bitcoin, mais avec le temps, je suis beaucoup plus intéressé par son pouvoir de transformation de notre société sur des aspects de liberté, d'auto-souveraineté. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, on a vraiment une adoption assez significative de Bitcoin dans des pays du Sud, notamment, alors que dans nos sociétés occidentales, Bitcoin reste principalement un placement financier. Mais je pense que voir Bitcoin que sous l'aspect placement financier, c'est vraiment voir la partie énergie de l'aspect.
Ouais, c'est une vision limitée de tout ce que peut apporter Bitcoin.
Voilà, exactement.
Je voulais aussi te demander, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour qui le Bitcoin est complètement nouveau, et j'aime bien toujours demander à nos différents invités, quelle est pour eux un peu leur définition de Bitcoin? Comment tu définirais Bitcoin en quelques mots?
Alors, je vais te donner une définition un peu cypherpunk, mais elle est très courte. Pour moi, Bitcoin, c'est la séparation de l'argent et de l'État. Donc en gros, on a une monnaie qui est totalement indépendante, qui n'est contrôlée par personne et par tout le monde en même temps, en fait. C'est un commun. Pour moi, Bitcoin, c'est vraiment l'Internet de la valeur, l'Internet de l'argent. Donc c'est complètement bouleversant et je pense qu'on est vraiment au tout début de ce que Bitcoin peut réaliser. Donc oui, pour moi, la vraie définition de Bitcoin, sans rentrer dans les détails techniques ou quoi, c'est vraiment la séparation de l'argent et de l'État. On redonne le pouvoir à l'individu sur la façon dont il gère son argent, tout simplement.
Alors, je voulais revenir un peu sur Wallet, parce que c'est super intéressant ce que vous faites. Et du coup, ça touche un peu plus à l'aspect technique et technologique, qui est aussi, comme on disait, il n'y a pas que l'aspect financier à Bitcoin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, pareil, en démarrant très simplement, quelle est votre proposition de valeur? Qu'est-ce que vous faites? Sur quoi vous bossez?
L'idée, c'était de partir du constat que Bitcoin est avant tout un protocole informatique qui a certaines propriétés intéressantes, notamment sur la décentralisation et sur l'aspect qu'on enlève le tiers de confiance. En plus de ça, Bitcoin, pour fonctionner, possède un registre qui a dont la plus grande qualité, c'est l'immuabilité. Le fait qu'on ne puisse pas revenir sur les transactions après coup, que les blocs de la blockchain, de la timechain, hein, nous on dit la timechain, maintenant on ne dit plus la blockchain, la timechain de Bitcoin sont horodatés, et donc on a une certitude avec une précision d'environ une heure, encore une fois on ne va pas rentrer dans les détails techniques, que tel bloc est arrivé à telle heure. Donc l'idée c'était d'utiliser cette propriété d'immuabilité et le fait que tout le monde puisse la vérifier, la constater, pour faire de la confiance numérique, c'est-à-dire mettre dans cette blockchain des preuves de signature électronique, des preuves de ce qu'on appelle l'horodatage, c'est-à-dire prouver que telle donnée n'a pas bougé depuis telle date. Des choses qu'on faisait déjà avant Bitcoin, mais de façon totalement centralisée, c'est-à-dire qu'avant, c'était un tiers qui mettait sa responsabilité, un peu comme un notaire ou un tiers de confiance numérique, qui va dire « oui, moi, j'ai constaté que cette donnée était dans tel état à telle date ». Il va signer et c'est sa réputation qui va, le fait qu'il soit certifié ou qu'il ait un diplôme, qui va donner, de la confiance sur cette information. Avec Bitcoin, l'idée, c'était vraiment de l'utiliser comme un notaire géant et gratuit, d'une certaine façon, qui appartient à tout le monde, pour justement émettre ses preuves et pour qu'on puisse les vérifier, même très longtemps après, de façon décentralisée. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, évidemment, il y avait quelques challenges techniques. On ne pouvait pas forcément faire une transaction pour chaque document qu'on envoyait dans la blockchain. Donc, on a réalisé une technologie qui, avec très peu de transactions, pour être précis, 4 par jour, est capable de certifier, horodater des millions de preuves par jour. Donc voilà ce qu'on fait chez Wallet. Donc on a commencé par l'horodatage, on fait de la signature électronique, on fait de la certification. Et il y a des cas d'usage, en fait, pour tous les métiers où on a besoin de preuves. Donc c'est beaucoup du juridique, beaucoup de la conformité, de la compliance. En fait, à chaque fois qu'on a besoin de montrer patte blanche en fait, sur des déclarations, sur du déclaratif, ça devient intéressant d'utiliser notre technologie.
Voilà. Je rebondis sur quelque chose et on en parlera plus en détail après, mais c'est une question que beaucoup de gens, j'imagine déjà les gens posent la question, pourquoi avoir choisi Bitcoin, sachant que maintenant il y a plein de blockchains, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je suis très curieux que tu nous expliques un peu, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Pourquoi du coup le faire sur Bitcoin ?
Outre le fait que moi je suis Bitcoin maximaliste depuis 2017, hein, j'avais fondé Wallit, je n'étais pas maximaliste.
Ok, enfin, intéressant.
C'est intéressant à comprendre. Notre travail avec Wallit, c'était vraiment d'offrir à nos clients la preuve la plus résiliente possible et celle qui puisse être utilisable le plus longtemps possible. Donc, il fallait, si on choisissait un registre consensus autonome distribué comme Bitcoin, qu'on choisisse le protocole qui avait le plus de chances de durer dans le temps, qui était le plus résistant aux attaques, qui était le plus sécurisé. Donc, à partir du moment où on a dit ça, il n'y a pas 10 000 choix. En fait, il n'y en a qu'un. Je donne un exemple. Si on avait, par exemple, choisi une autre blockchain, je vais citer la deuxième comme Ethereum, qui a changé de consensus, qui a changé d'algorithme plusieurs fois, enfin de règles, en fait, du protocole plusieurs fois depuis qu'on a commencé en 2016, les preuves qu'on a faites en 2016 ne seraient plus vérifiables de la même façon aujourd'hui. Alors qu'avec Bitcoin, avec le fait qu'on ait cette rétrocompatibilité, le fait que même les anciens nœuds fonctionnent toujours aujourd'hui, on est toujours capable de vérifier des preuves de 2016. Et par rapport au service rendu aux clients, typiquement, on travaille par exemple avec l'immobilier. Et dans l'immobilier, il y a quelque chose qu'on appelle la garantie décennale. La garantie décennale, quand on construit un bâtiment, c'est que voilà, au bout de 10 ans, on a le droit de contester. Et souvent, les procès, ils arrivent à 9 ans et demi. Donc, il fallait vraiment un registre de preuves qui soit le plus résilient possible. Et quand on a ce cahier des charges, en fait, il n'y a pas 10 000 choix. En fait, il n'y en a qu'un, et c'est Bitcoin.
Est-ce que j'aurais tort de dire que Bitcoin, c'est le protocole informatique le plus sécurisé au monde ?
On peut dire ça, parce qu'il y a quand même pas mal de... Vu qu'on est censé sécuriser de l'argent, je pense que c'est le plus haut niveau d'exigence qu'on puisse avoir sur un protocole informatique. Donc oui, il est sécurisé et puis il est surtout résilient, en fait. C'est vraiment ça, il résiste aux attaques. Bitcoin est censé être attaqué, pas grand monde arrive à le mettre à défaut.
Tout à l'heure, tu nous as donné une définition que tu as nommée de cypherpunk. Du coup, ça me fait penser à revenir un peu à la jeunesse de Bitcoin. Est-ce que tu peux nous donner juste ton avis pour toi ? Pourquoi Bitcoin a été créé ? Un peu, quelle est sa genèse ? Si on reprend vraiment les débuts de Bitcoin.
Alors c'est intéressant, la plupart des gens font l'association qui pour moi est un peu erronée avec la crise financière de 2008. Comme le papier de Satoshi Nakamoto qui a présenté Bitcoin pour la première fois est apparu en 2008, c'était facile de faire
l'association entre les deux.
Mais en fait la genèse de Bitcoin date de bien plus longtemps que ça. Si je prends par exemple le manifeste du crypto-anarchisme, qui date de 91, je crois, et même tous les travaux précédents Bitcoin qu'on a eu avec Bimoni, eGold, tous les essais qu'il y a eu, en fait, avant Bitcoin. La genèse de Bitcoin date d'avant la crise financière 2008. Alors, évidemment, Satoshi a fait un petit clin d'œil dans le fameux premier bloc où il a inséré un message concernant la crise financière. Donc, on a fait le rapprochement. Mais voilà, c'est le travail des cryptographes, des fameux cypherpunks, dès les années 70, en fait, qui, en fait, s'est concrétisé avec Bitcoin. Et moi, alors, il y a une citation de Thibaut Maréchal, qui a fait la Surfing Bitcoin il y a longtemps, que j'adore, qui dit que Bitcoin, c'est la première et c'est la dernière des crypto-monnaies.
Ouais, c'est une que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que c'est une erreur de langage ou c'est une erreur de communication qu'il y a eu. Bitcoin, en fait, n'est pas la première crypto-monnaie.
Exactement.
Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de tentatives avant. Mmh. Et en fait, je trouve que c'est intéressant pour les gens de comprendre que Bitcoin, c'est le résultat de beaucoup de R&D, en fait, beaucoup de recherche et développement. Ok, super intéressant. Et pour toi, t'en penses quoi du fait que Satoshi ait décidé de rester anonyme ? C'est important ? C'est pas important ?
Alors, aujourd'hui, on voit que c'est clairement un avantage pour Bitcoin d'avoir un créateur qui est anonyme, mais qui a disparu, en fait, qui ne communique plus, on ne sait pas, il est peut-être mort, en fait, on n'en sait rien. C'est bien, clairement, pour pour montrer qu'il n'y a pas de chef en fait dans Bitcoin, il n'y a pas de décideur, contrairement à d'autres protocoles où on voit clairement des leaders de pensée. Et même si ce serait intéressant de savoir qui c'est, aujourd'hui c'est plus très important. Parce que si on prend juste, par exemple, le code qui est utilisé aujourd'hui pour faire tourner Bitcoin, la contribution de Satoshi, elle est réduite à peau de chagrin aujourd'hui. Donc, Bitcoin vit très bien sans Satoshi. Donc, clairement, l'anonymat du fondateur, c'est un avantage par rapport à justement cette décentralisation et le fait qu'il n'y ait pas de chef identifié. En fait, on n'en a pas forcément besoin aussi parce que Bitcoin est open source et que tout le monde peut, il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui peuvent auditer le code et même contribuer à Bitcoin aujourd'hui. On a plusieurs centaines de contributeurs aujourd'hui sur Bitcoin.
Je sais qu'il y a une fausse idée un peu reçue sur Bitcoin, et je serais curieux que tu nous expliques un peu, c'est que aussi si Satoshi réapparaissait, disons, qu'il puisse changer quelque chose, mais en fait, même Satoshi, aujourd'hui, n'a aucun moyen d'influencer, alors, sauf sur la partie où peut-être il détient des bitcoins, mais en soi, sur la partie code et développement, il ne peut pas influencer sur Bitcoin, c'est ça ?
Non. Alors après, j'imagine que s'il revenait et qu'on avait des moyens de prouver que c'est bien lui, j'imagine que sa parole serait entendue.
Ouais.
Mais aujourd'hui, quand on voit les débats aujourd'hui, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais sur les propositions de changement de protocole, on voit très bien que c'est de plus en plus dur de changer le protocole Bitcoin. Et pour moi, c'est bien parce qu'il y a une notion qui s'appelle l'ossification du protocole qui fait que c'est ça qui fait qu'un protocole va adopter. Si on compare à Internet, le protocole de base, le protocole IP ou TCP/IP même, n'a pas changé en 35 ans, 40 ans. C'est ce qui fait qu'on a eu plein d'innovations et qu'on peut avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Si ça bougeait tout le temps, on n'aurait pas pu évoluer aussi rapidement. Donc c'est bien aussi que Bitcoin soit difficile à changer, qu'il fasse une chose de simple, mais qu'il le fasse bien et qu'on innove en fait sur les couches supérieures de Bitcoin, comme avec le Lightning Network aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, il faut un peu, c'est l'analogie un peu simpliste, mais je trouve qu'elle est vraie, c'est on peut pas construire sur des bases qui ne sont pas solides, tout simplement.
Exactement, on construit pas sur des sables mouvants.
Ouais, exactement. Je me suis noté une petite anecdote, alors qui est connue de la communauté, mais que beaucoup de gens qui nous écoutent ne connaissent pas, c'est la première achat qui a été fait avec du Bitcoin, donc le 22 mai 2010, par quelqu'un, donc je vais certainement mal prononcer son nom de famille. Ouais, voilà, c'est ça. Qui dépense 10 000 bitcoins pour deux pizzas. Et c'est vrai, alors que ça parle beaucoup dans les médias, parce que ça représenterait aujourd'hui une grosse somme d'argent à plus de 250 millions d'euros au prix actuel. Est-ce que pour toi, tu penses que c'était un moment clé de l'histoire du bitcoin, de vraiment prouver qu'il y a une transaction un peu commerciale, on va dire, de Bitcoin?
Oui, pour moi, c'est clairement un moment clé parce qu'à la base, il ne faut pas qu'on oublie que Bitcoin a été créé pour ça, faire des transactions. Et c'est encore quelque chose qui a changé par rapport à mon opinion sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'au tout début de ma vie de Bitcoiner, je pensais que c'était pas très intelligent de dépenser ses Bitcoins. Mais plus ça va, plus justement, au contraire, j'encourage les gens à dépenser leurs bitcoins, quitte à les remplacer tout de suite après, parce que c'est comme ça qu'on fait vivre Bitcoin et c'est comme ça qu'on lui donne vraiment sa vraie utilité. Et en fait, si on dit que Bitcoin, c'est de l'argent, avec l'argent, ben, on épargne, mais on dépense et on investit, c'est de l'argent, quoi. Donc l'idée, c'est toujours d'en dépenser moins que ce qu'on en gagne. Donc, l'idée, c'est, pour moi, c'est très bien de dépenser ces bitcoins. Bon, je trouve que c'est mieux de les dépenser que de les trader. Voilà.
C'est sûr. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler, et sans même parler de Bitcoin, c'est que le but de l'épargne, c'est de financer des objectifs de vie. Comme tu l'as dit, en France, c'est son premier bien immobilier, c'est partir en vacances. Et donc, peu importe l'actif sous-jacent, donc si on prend l'exemple du Bitcoin, on épargne pour ensuite se payer quelque chose.
Tout à fait.
Donc, ça fait un peu le lien avec ce que tu dis. J'ai une autre question pour toi. Comment est-ce que le Bitcoin est-il passé d'une idée novatrice à une crypto-monnaie largement reconnue aujourd'hui? Un peu, c'est quoi l'évolution que tu dirais?
Alors, y a cette fameuse citation, bon, on l'attribue à Gandhi, mais je ne sais pas si elle est vraiment de lui, qui est « First they laugh at you, then they First, they ignore you, la première phrase, ils vous ignorent. Then, they laugh at you, après, ils vous moquent. Then, they fight you, and then you win. Donc, ils vous combattent et vous gagnez à la fin. Je trouve que ça illustre assez bien ce qui se passe sur Bitcoin, en sachant que je pense qu'on est un peu dans le fight, déjà, aujourd'hui. Okay.
Donc, plutôt vers la fin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Exactement, on va bientôt gagner. C'est ça que ça veut dire.
Exactement.
C'est ça que ça veut dire. Notamment avec les CBDC et tout, ça, c'est un peu les contenders de Bitcoin actuel. Et donc... Bitcoin, avant, c'était vraiment un projet de passionné qui ne concernait que quelques barbus dans leur cave. Ensuite, on a eu les gamblers, on va dire, les gens qui avaient besoin de moyens de paiement, on va dire, sans friction, et innovateurs, surtout avec des moyens d'envoyer de la valeur un peu partout dans le monde, sans intermédiaire et rapidement. Et puis, ça commence à s'institutionnaliser, il est dur à dire ce mot. C'est adopté par les entreprises, par le particulier. Et en fait, encore une fois, je fais l'analogie avec Internet. Internet, ça a mis beaucoup de temps à devenir l'outil utilisé par tout le monde. Je dirais que ça a mis facile 20 ans. Entre ARPANET et les premiers sites web, il y a du temps qui est passé. Et avec Bitcoin, c'est une idée tellement révolutionnaire, tellement, on va dire, disruptive, que ça ne m'étonnerait pas que ça mette à peu près le même temps, voire plus, parce que révolutionner l'information, c'est bien, révolutionner l'argent, c'est encore plus violent, en fait.
Surtout compte tenu du rôle que l'argent a dans notre société.
Exactement. C'est... Et puis de tout temps, depuis
des millénaires.
Voilà. Donc oui, cette évolution, elle est progressive. En fait, il y a toujours cette notion de préférence temporelle, en fait, sur Bitcoin, où comparé à d'autres crypto-monnaies, où on veut aller très vite, un peu l'esprit, un peu Silicon Valley, move fast, break things. Sur Bitcoin, c'est tout l'inverse. C'est move slow and don't break anything.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, il faut être conscient de ça. Se dire que Rome ne s'est pas fait en un jour et qu'en gros, c'est progressif. Mais franchement, moi qui suis là depuis 2013, on m'aurait dit Bitcoin en 2023, où il est aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru.
Ouais, on peut toujours voir, on peut voir les deux côtés des choses. Mmh. À la fois, Bitcoin n'est plus si jeune que ça, parce que ça fait plus de 13 ans, plus ou moins, si je ne me trompe pas. Mmh. Mais en même temps, on a déjà accompli pas mal de chemin. Et en même temps, il y a aussi encore beaucoup de choses compte tenu de l'ambition du...
On est encore
quoi.
Très tôt dans l'histoire de Bitcoin. Voilà.
Est-ce que pour toi, il y a eu des facteurs clés qui ont propulsé un peu la croissance de Bitcoin ? Des accélérateurs, entre guillemets ?
Ouais, le premier accélérateur, et d'ailleurs ça coïncide un peu à la disparition de Satoshi, le tout premier, c'est quand Wikileaks, qui n'avait plus de moyens de recevoir des dons, s'est tourné vers Bitcoin pour se financer. Je ne sais plus la citation de Satoshi, il dit à un moment, les saints commencent à fondre sur nous, on commence à attirer l'attention, moi je me barre. Il a en gros dit ça. Et ça, c'était assez important, parce que ça montrait que quand on vous coupe la carte bleue, les comptes en banque, et tout moyen de paiement possible, qu'est-ce qui reste et qui n'est pas stoppable, en fait, qui n'est pas censurable, eh bien, c'est Bitcoin. Donc ça, on va dire que c'était un premier événement notable. Après, j'ai envie de dire, malheureusement, ce qui a fait, qui a attiré les gens, c'était beaucoup les cycles un peu de bulles successifs. Hein. Moi, j'en ai connu trois. Donc, je suis arrivé, Bitcoin était à $50. Trois mois après, il était à $1,000 en 2013.
C'est 2013, 2014, voilà. 2017.
Et 2017 et récemment, 2020, 2021. Mmh. Donc ça, forcément, ça attire l'attention des médias. Ça fait des bulles un peu spectaculaires. Ça monte très haut, ça redescend très vite. Mais quand on regarde, évidemment, sur le temps long, ça redescend peut-être vite, mais toujours plus haut que la bulle d'avant.
Donc, la tendance reste haussière.
Tendance reste haussière pour des raisons très simples. Hein. Mais en fait, ça, effectivement, à chaque fois qu'on a eu des bulles, en fait, ça a attiré l'attention et ça a ramené beaucoup plus d'utilisateurs. Et après, il y a des événements dont personne ne parle, mais qui sont très fondamentaux dans l'histoire de Bitcoin. Notamment en 2017, il y a un épisode qui s'appelle la guerre de la taille des blocs, la Block Size War, qui était un épisode, on va dire, politique interne de Bitcoin, où on avait tout l'écosystème économique de Bitcoin qui voulait changer Bitcoin, donc mettre des blocs plus gros pour faire plus de transactions, hein, pour faire simple.
Pour répondre soi-disant, entre guillemets, à cette grande question de « Ah, Bitcoin est trop lent, ça scalera jamais, voilà, comme Visa. »
Surtout
comme...
la question de la scalabilité. Ils voulaient faire plus de transactions, tout simplement.
C'est ça.
Mais malgré le fait que la plupart des gros mineurs de Bitcoin, la plupart des gros acteurs économiques, soit Coinbase ou autres, voulaient faire ce changement, ils n'y sont pas arrivés. Parce qu'il y avait des forces, on va dire, contradictoires, que sont les users, les gens qui ont leur nœud Bitcoin, les utilisateurs de Bitcoin, n'étaient pas d'accord. Et sur Bitcoin, quand on n'a pas de consensus, quand tout le monde n'est pas d'accord, on ne change pas Bitcoin. Et on sait très bien à quel point c'est difficile d'avoir un consensus sur des sujets aussi... parce que là, en fait, au début, ça avait l'air simple, comme ça, l'augmentation des tailles des blocs. Moi-même, au tout début, j'étais pour. Je me disais, oui, pourquoi pas. En fait, c'est logique. On va mettre des plus gros blocs, donc on va mettre plus de transactions. Mais en creusant un peu la chose technique, on se rend compte que si on fait ça, on perd autre chose. On perd de la décentralisation. Il faut plus de disques durs pour avoir la blockchain. Ça fait moins de nœuds et ça fait de la centralisation. Donc ça, c'était un épisode extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est cet épisode, moi, qui m'a rendu maximaliste.
Okay.
Parce que c'est en regardant ça que vraiment j'ai vu que Bitcoin était résilient.
Voilà. Je pense, moi, quand je regarde cet épisode, et j'invite tout le monde à le creuser, y a eu un peu trois conclusions pour moi. C'était un, la preuve que plein de gens dont on pense contrôlent Bitcoin ne le contrôlent pas.
Mm.
Et que, on va dire, ceux qui ont le dernier mot, c'est les utilisateurs de Bitcoin. Ceux qui ont téléchargé le logiciel de Bitcoin, pour faire simple. Deuxièmement, comme tu l'as très bien dit, qu'on a beau avoir des promesses sur d'autres blockchains, d'autres technos pour faire plus, en fait, il y a une importance à ce que Bitcoin est comme il est. Et ça, je trouve que c'est important que les gens le comprennent. Et donc, j'invite tout le monde à regarder cet épisode parce que, d'ailleurs, il y a un livre
et d'ailleurs, qui est en cours de traduction.
Top. Parce que c'est vrai, moi, du coup, je l'ai lu en anglais, mais il est vraiment super intéressant et ça donne vraiment une nouvelle facette.
Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais à New York lors du fameuse réunion, j'étais derrière la porte où il y avait
les grandes discussions,
New York Agreement. Je parlais aux cofondateurs de Ledger qui, eux, alors c'est tout à leur honneur, avaient refusé d'être dans cette... c'était parmi les seuls, des gros acteurs à ne pas être dans ce consortium de gens qui voulaient changer Bitcoin. Donc vraiment, c'était un moment historique et je l'ai vécu vraiment plein
de temps. Super intéressant. Mmh. En parlant d'autres moments clés, il y a... plus récemment, et dont je pense le grand public a beaucoup entendu parler, c'est El Salvador, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie ayant un cours légal. Qu'est-ce que, juste ton avis dessus, est-ce que pour toi c'est quelque chose de positif, et est-ce que tu vois d'autres pays qui l'adopteraient, comment tu vois les choses?
Alors quand c'est arrivé, on était tous surpris, c'était quand même inattendu.
Que ce soit El Salvador, et de un, et de deux, c'est le premier pays, tout simplement.
Alors, même pas que ce soit El Salvador, qu'un pays. Rendre Bitcoin monnaie légale, en fait. Parce que c'est quand même un précédent assez important. Effectivement...
C'est contre-intuitif, parce que, comme tu le disais plus tôt, dans ta définition, c'est un peu l'État versus la monnaie.
Mais ce qui est intéressant dans cette décision du Salvador, c'est voir... il y a eu un texte avant la loi qui expliquait pourquoi il allait faire la loi. Et ce texte est très intéressant, parce qu'en gros, Nayib Bukele explique dans ce texte que... Le Salvador était déjà sous le dollar, en fait. Et il explique l'adoption de Bitcoin pour dire « Moi, je préfère ne pas dépendre d'une... Enfin, avoir une politique monétaire qui est impossible à manipuler que dépendre de la politique monétaire de la Fed aux États-Unis. Et que voilà, tous les cadeaux d'émissions, de dettes qu'on fait aux États-Unis dont le peuple salvadorien ne bénéficie pas, en fait, moi, j'aimerais avoir une deuxième voie. » Et donc, et Bitcoin, c'est cette voie. Donc, on va dire, c'est très courageux comme initiative. Et on voit que, ça démarre doucement, mais il se passe des choses très intéressantes au Salvador en ce moment.
J'allais dire, en fait, quitte à ne pas contrôler la politique monétaire, parce que c'était, comme tu l'as dit, c'était basé sur le dollar, tant qu'à faire que ça soit basé sur des maths, quoi, finalement.
Exactement. Exactement.
Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, on attend de voir, est-ce qu'il y aura un autre pays qui l'adopte?
Je pense que... Après... peut-être pas de la même façon.
C'est ça, ouais.
Je pense, oui, y a pas mal de... On parle beaucoup de l'Argentine en ce moment. Alors, je ne suis pas sûr que l'Argentine fasse exactement pareil, mais disons que le candidat, on va dire...
J'allais dire, il y a des élections, non ?
C'est ça, oui, il y a des élections cette année, et le candidat qui est en tête dans les sondages, en fait,
et
pour faire simple,
pro-Bitcoin.
Il est plutôt pro-Bitcoin. Je ne sais pas s'il a vraiment tout compris Bitcoin quand je l'écoute, mais il est quand même ouvert à l'idée. Et l'Argentine, c'est quand même... pour citer Cédric O, c'est qui disait « Let's be serious » en parlant du Salvador quand il faisait son panel avec Sisi de Binance. L'Argentine, ça commence à être un gros pays.
Oui, c'est parce qu'on change de proportion.
Voilà, exactement.
En parlant de différents pays et l'adoption du Bitcoin, je pense à d'autres pays qui ont, sans parler qu'il y ait une monnaie en cours légale avec le Bitcoin, il y a plein de pays qui ont déjà quand même une grosse adoption de Bitcoin. Je pense notamment au Nigeria.
Voilà, et paradoxalement, ce sont les pays où Bitcoin est interdit.
Oui, c'est ça, contre-intuitivement.
Où il n'y a pas eu de loi. Et le Niger, je crois qu'ils sont deuxièmes en adoption dans le monde. Ils ont les CBDC, Bitcoin est interdit. Et pourtant, c'est là qu'on a le plus d'adoption dans le monde.
En termes de volume, d'échange
Voilà, en termes d'utilisation, tout simplement. Et tout ça pour une bonne raison, c'est que Bitcoin, c'est une solution pour eux par rapport à leurs problèmes bien concrets, en fait, de conservation de la valeur, parce qu'ils ont des monnaies, on va dire, encore plus volatiles que Bitcoin. Et puis aussi, ils n'ont pas forcément d'outils, les outils que nous, on a, de paiement, de carte bleue, de vie. Ils ne sont pas bancarisés, en fait. Donc oui, l'Afrique, mais aussi l'Asie et l'Amérique du Sud sont clairement les régions du monde où on utilise plus Bitcoin pour ce qu'il est, c'est-à-dire du transfert, de la conservation de valeur, du paiement, etc., etc.
J'allais dire, on parle de beaucoup de gens, des États qui commencent à se pencher sur Bitcoin. Je fais le pont avec aussi quelque chose que tu disais plus tôt, c'est la partie résilience de Bitcoin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pour toi qu'est-ce qui garantit justement la sécurité de Bitcoin ? Qu'est-ce qui ferait que demain, d'un côté c'est positif, plein de gens se penchent sur Bitcoin, dont des États et dont la force de frappe d'un État potentiellement. Qu'est-ce qui empêcherait qu'un acteur malveillant, si je peux dire, attaque Bitcoin ?
Bitcoin, justement, a des mécanismes notamment la proof of work, hein, principalement, c'est-à-dire la preuve de travail, qui fait que c'est celui qui, en dépensant de l'énergie, va prouver qu'il a effectué un travail, et c'est lui qui a le droit d'inscrire dans le registre, et donc de faire un bloc, et donc de miner un bloc, et d'avoir une récompense par rapport à ce travail. Et en fait, tout le système de Bitcoin, qui est très lié à la théorie des jeux, en fait, fait que tricher ou essayer de tricher n'est pas du tout rémunérateur et même punitif, en fait. Et donc, ce qui fait que Bitcoin, le modèle de sécurité de Bitcoin, il est plutôt basé sur l'appât du gain du mineur et aussi, surtout, l'intérêt personnel des utilisateurs, parce que les mineurs, ils fabriquent les blocs, mais c'est les utilisateurs, ceux qui ont un node. Alors, il y a un gros débat. Pour moi, le vrai utilisateur de Bitcoin, c'est celui qui a un nœud.
Qui est donc le logiciel
exactement,
de Bitcoin.
Exactement, le nœud du réseau, dont le rôle, en fait, est de valider les transactions. Tout le monde pense que le minage valide les transactions. C'est faux. C'est les nœuds qui valident les transactions et qui relaient aussi dans le réseau. Donc, le rôle des nœuds est très important. Donc, c'est pour ça que faire tourner son nœud, c'est choisir les règles du protocole et aussi
C'est être souverain. Aussi.
Exactement, c'est être souverain. Et en fait, un nœud sert surtout à vérifier l'historique de transaction soi-même. Et en fait, il ne sert que, en vrai, quand on reçoit des bitcoins, en fait. Parce que pour envoyer, on n'a pas forcément besoin de nœud. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment pour ne pas se faire avoir et vérifier que la transaction qu'on nous envoie est bien valide, elle n'est pas dépensée ailleurs, etc., etc.
Et c'est vrai que les gens pensent souvent que c'est en faisant la self-custody, donc en achetant une clé, en détenant, en possédant sa clé, qu'on est souverain, mais en fait, et qu'on n'a pas de tiers de confiance. Mais en fait, c'est réellement en roulant un nœud, donc en téléchargeant le logiciel, qu'on est souverain et qu'il n'y a plus de tiers de confiance.
Exactement.
Et ça, je pense, c'est pas souvent très bien compris. On pense souvent que pour enlever ce tiers de confiance, c'est juste, je vais acheter une clé Ledger, il n'y a plus de tiers de confiance. Non, il y a encore un tiers de confiance, c'est ça.
Exactement. Et d'ailleurs, je salue tout le boulot d'éducation que vous faites. Et je pense qu'il y a un énorme travail d'éducation à faire pour que les gens comprennent Bitcoin. Parce que certains pensent qu'ils ont acheté des Bitcoins sur Binance et qu'ils ont des Bitcoins. Il y a un proverbe bien connu qui est « not your keys, not your coin ».
Ouais.
Si vous passez par un intermédiaire et que vous lui laissez, on va dire, la custody,
la conservation
de vos actifs, eh bien, vous ne les possédez pas vraiment. Et surtout, vous ne profitez pas de la vraie invention, qui est justement le fait d'être totalement souverain, que personne ne puisse venir prendre vos fonds, les saisir ou les voler. Ou, voilà, comme au Liban, on a vu récemment des gens, la banque ne voulait plus leur donner leur argent. Avec Bitcoin, ce n'est pas possible quand on a la souveraineté sur ses fonds. Donc c'est vraiment un point très important et il y a quand même pas mal de concepts de base à bien comprendre pour faire ça correctement. Typiquement, moi, j'entends plein de gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai un ledger, c'est bon. » Mais ils ne comprennent pas que leur argent, en fait, c'est les 12 mots sur le papier. Que ce n'est pas le ledger. Le ledger, ils peuvent le perdre. Le ledger ne sert qu'à dépenser des bitcoins, à signer des transactions. Mais si vous perdez les 24 mots, vous n'avez plus de bitcoin. Donc, limite, le papier est beaucoup plus important
que le ledger. Ouais.
Donc voilà, il faut vraiment éduquer pour que les gens comprennent comment tout ça fonctionne. C'est tout sauf évident. Hein, et c'est pour ça que je pense que l'éducation Bitcoin a de beaux jours devant elle.
Je fais un peu la transition sur les points forts de Bitcoin. On a touché un peu à l'aspect monétaire de Bitcoin. Enfin, on a évoqué l'aspect monétaire. C'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui vont comparer Bitcoin à l'or. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui l'appellent comme l'or numérique. Pour toi, pourquoi cette association est faite? Du coup, on va peut-être discuter un peu de la partie monétaire de Bitcoin, ses caractéristiques.
Après, on rentre dans un débat d'économistes, hein, les Autrichiens contre les Keynésiens. En fait, pourquoi Bitcoin est comparé à l'or? Parce que le modèle d'émission, de libération, je préfère dire, parce qu'en gros, il y a 21 Bitcoin et ils sont libérés avec le temps, est une, on va dire, une simulation d'un métal précieux. Alors qu'au départ, on trouve un gros gisement, c'est très facile à extraire. Et plus ça va, plus on doit trouver de nouveaux gisements, plus c'est difficile à extraire et on va réussir à en trouver de moins en moins avec le temps. Donc la comparaison, elle est vraiment sur ça, sur la politique monétaire qui fait qu'il n'y en aura que 21 millions et qu'avec le temps, il y en aura de moins en moins qui seront libérés.
Jusqu'à atteindre ce cap.
Mais pour moi, la comparaison avec l'or, elle s'arrête là. Parce que pour moi, Bitcoin est beaucoup mieux que l'or, en fait, sur plein d'aspects. On ne peut pas envoyer de l'or de l'autre côté de la planète en une seconde. Ce n'est pas possible. Pour sécuriser de l'or, il faut des caméras, un coffre à 10 000 dollars.
Tout un dispositif bien.
Des armes, voilà. Donc, pour moi, Bitcoin, sur les propriétés où l'or est fort, normalement, Bitcoin le bat à plate couture, enfin. C'est mon avis. Alors effectivement, ça demande de savoir le sécuriser et savoir le conserver. Mais après, Bitcoin, c'est pas que la monnaie, le token, c'est aussi le protocole et c'est aussi le réseau de paiement. Donc Bitcoin lui-même possède tout à la fois la monnaie et le réseau de paiement. C'est comme si on avait un euro avec le Visa intégré dans le même protocole. C'est quand même assez puissant et les gens... s'en rendre compte un peu au fur et à mesure. C'est pour ça que beaucoup de gens sont de plus en plus intéressés par ce protocole.
Ouais. C'est pour ça que moi, j'aime bien, dans ma définition de Bitcoin, expliquer que c'est d'abord un protocole informatique qui permet d'échanger de la valeur de manière complètement nouvelle. Et c'est ce protocole informatique qui s'avère inclure l'émission d'un actif numérique, le Bitcoin, qui sécurise ce protocole informatique. Et on a du coup, en un seul dispositif, à la fois un protocole de paiement et un protocole monétaire, quoi, une politique monétaire. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment innovateur dans Bitcoin. Si on fait la comparaison maintenant, pas avec l'or, mais avec les monnaies traditionnelles, et je sais qu'on a évoqué les CBDC, mais on pourra peut-être après en parler plus en détail, parce que c'est intéressant, et il y a plein de gens qui se penchent dessus. Pour toi, c'est quoi un peu la comparaison, et pourquoi Bitcoin est, souvent on le dit, supérieur aux monnaies traditionnelles?
Alors, le problème des monnaies traditionnelles, que sont l'euro, le dollar, c'est qu'elles dépendent du bon vouloir, d'une politique monétaire, on va dire, qui peut être mouvante des banques centrales, dont l'objectif premier est de limiter l'inflation. On voit bien qu'elles n'y arrivent pas forcément très bien en ce moment, ou même de tout temps, en fait, parce que les prix n'ont cessé d'augmenter. On va dire l'euro ou le dollar ne font que perdre de leur valeur avec le temps. Donc, clairement, la faille sur le fiat, c'est l'humain, c'est le politique, c'est la corruption, ou alors... l'incompétence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas les maths. Donc, par rapport à ça, la politique monétaire de Bitcoin, elle a beau ne pas être malléable, mais au moins, elle est claire, elle est prévisible, Et on peut construire une économie autour de ça. Il y a le fameux livre de Savi Dynamous, qui est le Bitcoin standard, qui évoque la possibilité qu'on arrive à un standard Bitcoin, un peu comme on a eu un standard étalon or. Mais pour moi, on pourrait avoir un standard Bitcoin qui soit encore plus puissant que l'étalon or, parce que Bitcoin, contrairement à l'or et aux réserves d'or, Bitcoin est auditable. Et donc, qu'on pourra clairement savoir combien de Bitcoin en état. Et moi, j'imagine même la possibilité qu'on puisse introduire une politique monétaire, même keynésienne, c'est-à-dire exactement comme aujourd'hui, basée sur de la dette, mais quand même sur un étalon Bitcoin et qui sera auditable, et on pourra avoir de la compétition réelle, auditable, entre les différentes politiques monétaires de différents pays, par exemple. Ça, je l'imagine très bien, parce que je vois personnellement de mon vivant, alors peut-être ça va arriver, Bitcoin devenir le standard monétaire total, c'est-à-dire que la disparition des monnaies fiat. Moi, je pense qu'on va avoir une petite évolution possible. Alors, il y a plusieurs cas. C'est soit la monnaie fiat prend en compte l'existence de Bitcoin et l'utilise, soit on a deux mondes parallèles, on a le cyberespace et on a le monde fiat, où là, Bitcoin devient la monnaie des pirates, quoi, et uniquement des pirates. Mais dans tous les cas, Bitcoin aura de la valeur et sera utile.
Oui, c'est ça qui est important. Donc, il y a le scénario où les deux coexistent et il y a le scénario où l'un prend le dessus. Il y a un peu la monnaie forte.
Voilà. Actuellement, on est dans le cas où les deux coexistent, mais Bitcoin est aujourd'hui tout petit par rapport au dollar ou à l'euro. Mais si Bitcoin grandit, là, on va voir que la cohabitation, il va falloir faire certains arrangements, certains compromis, et ce ne sera pas côté Bitcoin. Parce que Bitcoin ne fait pas de compromis,
puis
ni
personne
aucun arrangement.
Personne ne peut changer quoi que ce soit, de toute façon. Donc,
exactement.
Fait,
donc, c'est aux États de s'adapter.
C'est exactement. Quand on parle aussi de la partie financière de Bitcoin, forcément, on parle à des inquiétudes que les gens ont. Et je sais, nous, de l'expérience que l'on a chez Bitstack, c'est souvent lié à la volatilité du prix. Mais de toute façon, c'est globalement la première inquiétude des gens quand ils parlent d'épargne ou d'investissement. Est-ce que toi, tu as une réponse à ça, cette inquiétude, quand les gens parlent de la volatilité et que du coup, ça les empêche de s'y pencher, malheureusement, sur le sujet?
En fait, la volatilité, ça ne dérange personne quand ça monte.
Surprenamment.
Personne ne se plaint de la volatilité quand on prend 100% dans la journée. Le problème, c'est quand ça descend, en fait. Mais ce qui est bien, c'est... Enfin, la volatilité, on peut l'expliquer facilement. C'est un problème de liquidité, un problème de que le marché, justement, de Bitcoin est encore petit, même s'il pèse, je sais pas, 600 ou 700 milliards aujourd'hui. Mais en fait, c'est surtout, on va dire, une conséquence de la jeunesse de Bitcoin sur les marchés. Mais aujourd'hui, on a déjà des solutions techniques qui permettent de justement atténuer cette volatilité. Alors bon, déjà, si on est un investisseur et qu'on fait comme avec Bitstack du DCA, on va lisser son prix d'achat, on attend quelques années, on est forcément gagnant si on compte en fiat. Hein, parce qu'encore une fois, pour moi, l'échelle fiat, elle est un peu cassée. Mais si on compte en fiat, on est gagnant. Mais il y a d'autres choses qui sont arrivées récemment qui sont vraiment très intéressantes, comme ce qu'on appelle par exemple les stable sats, qui fait que on a des satoshis dans un wallet et on peut prendre une partie de ces satoshis et dire « moi, je veux qu'elles gardent leur valeur stable en euros ou en dollars ». Et du coup, il y a des mécanismes derrière qui vont faire des paris à la hausse ou à la baisse en même temps et qui vont permettre de sécuriser une quantité de son stack de Bitcoin et garder une valeur fixe en euros. Et ça, c'est possible aujourd'hui. Alors, c'est possible aujourd'hui avec des intermédiaires. Et là, ce sera possible demain sans intermédiaire, avec des technologies très avancées dont on discute aujourd'hui sur Bitcoin. Et ça, ça veut dire qu'en Afrique ou dans les pays où on n'est pas bancarisé, on peut avoir un wallet où l'unité de valeur, ce sera le dollar, hein, parce que les gens, ils comptent en dollars, et où on n'aura plus de volatilité, mais derrière, ce sera que du Bitcoin. Et on profitera de l'échange de Bitcoin instantané, du réseau de paiement de Bitcoin, et on ne va pas profiter des hausses ou des baisses spectaculaires de Bitcoin, mais on pourra utiliser Bitcoin pour ce qu'il fait, c'est-à-dire transférer de la valeur de pair à pair.
Sans intermédiaire de confiance, ouais.
Et sans intermédiaire.
Et je me permets de faire un tout petit rappel pour les gens, ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, les Satoshi, qui sont l'unité de mesure la plus petite du Bitcoin, un peu, moi j'aime bien dire, comme les centimes pour les euros.
Exactement.
Et donc un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi.
Voilà, dans un Bitcoin, il y a 100 millions de Satoshi.
C'est ça. Et du coup, on peut acheter, je dis ça parce que les gens nous posent la question, on peut acheter un euro de Bitcoin. C'est vrai qu'on
dit
à 20 000 euros,
je peux même acheter 2 centimes de Bitcoin,
voilà,
même 0,2 centimes de Bitcoin,
exactement.
C'est possible.
Une autre question pour toi, c'est est-ce que tu vois d'autres poncifs, d'autres fausses idées? Je pense notamment à l'aspect environnemental que j'aime bien dresser, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je pensais peut-être celui dont on parle le plus et que les gens aiment bien utiliser pour attaquer Bitcoin. Pareil, c'est quoi ton avis un peu sur le sujet?
Alors moi, en étant vraiment à fond dans le sujet, j'ai quand même noté, alors peut-être en avance de phase, un espèce de shift un peu dans ce discours « Bitcoin détruit la planète ». On avait beaucoup l'année dernière et l'année d'avant, mais on commence à avoir un petit changement aujourd'hui, tout simplement parce qu'on commence à se rendre compte que c'est faux. Donc c'est vraiment...
Et même qu'à l'inverse, que c'est plutôt positif.
Exactement. Donc on a des rapports, notamment un rapport de KPMG aux États-Unis qui explique qu'en fait, Bitcoin peut être une incitation aux énergies renouvelables. Le protocole Bitcoin a besoin d'énergie. Ça, on ne peut pas nier.
Il est énergivore.
Il est énergivore. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, par rapport à cette théorie des jeux et cette compétition entre les mineurs et la puissance de calcul qui ne cesse d'exploser, les mineurs n'ont pas d'autre choix que de trouver l'énergie la moins chère possible. Or, l'énergie la moins chère possible, c'est une énergie qui n'est pas dépensée. Et il y a plein de pertes d'énergie pas dépensées partout sur la planète. Je crois qu'il y a des chiffres délirants, genre 70% de l'énergie produite n'est pas consommée. Et donc, c'est là que les mineurs vont. Et du coup, Bitcoin, comme les mineurs ont la possibilité d'être mobiles, ils peuvent vraiment aller chercher partout l'énergie en surplus. Et donc au final, ils permettent aussi de financer des nouvelles installations, notamment sur les renouvelables, le solaire, l'hydro, beaucoup l'hydro. Et en fait, aussi, autre chose très importante qu'on voit notamment au Texas, ils permettent d'équilibrer la grille, de la grille, l'offre et la demande. Parce que souvent, dans des villes, la nuit, personne ne consomme d'électricité, le jour, on commence à... Et en fait, l'offre et la demande, en fait, il y a toujours un déséquilibre en fonction de la saison, de l'heure de la journée. Et d'avoir une industrie comme ça qui peut en fait combler tous les trous, s'arrêter sur demande aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industries qui peuvent couper à la demande, eh ben, on voit que c'est un super outil pour équilibrer la grid. Et ça, les gens s'en rendent compte en fait.
Ouais, parce que stocker et transporter de l'énergie, c'est extrêmement coûteux. Et donc Bitcoin répond à... Enfin, le dispositif de minage de Bitcoin répond à cette problématique.
Exactement.
Autre poncif qui me fait faire le point un peu sur des innovations technologiques de Bitcoin, on a parlé tout à l'heure de Bitcoin ne peut pas scaler, donc Bitcoin ne pourra jamais être un moyen de paiement. Il y a des travaux qui sont faits sur Bitcoin, dont le Lightning Network. Est-ce que tu peux nous expliquer, encore une fois, s'il te plaît, simplement, parce que c'est très technique et c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est super intéressant, mais qu'est-ce que le Lightning Network et comment ça répond à cette problématique-là de nombre de transactions sur Bitcoin?
Alors, le Lightning Network, c'est un nouveau protocole qui est construit au-dessus du protocole Bitcoin. Donc, c'est un protocole dit de Layer 2, qui va répondre à une problématique, qui est la problématique de la scalabilité. Alors, l'idée, c'est qu'avec des vraies transactions Bitcoin, on construise un réseau, on appelle ça des canaux de paiement, entre deux personnes qui ont des nœuds Lightning, et qui, interconnectées entre elles, forment un réseau où on peut joindre n'importe qui en passant par plusieurs nœuds de paiement. Et donc l'idée, c'est que d'autres transactions qui, elles, ne sont pas dans la blockchain, vivent à travers ce réseau. Et c'est aussi des transactions Bitcoin, mais qui ne vivent que sur ce sur-réseau et qui ont plusieurs avantages. Le premier avantage, évidemment, c'est la scalabilité. On peut aller vraiment jusqu'à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de transactions par seconde, donc potentiellement plus que Visa. Mais elles ont aussi l'avantage d'être instantanées. Et l'instantanéité, ce n'est pas l'instantanéité d'une carte bleue en NFC quand on va au bar tabac, par exemple. C'est une instantanéité de settlement, c'est-à-dire que la finalité du paiement est instantanée. Donc ça, c'est vraiment une révolution parce qu'on peut vraiment transférer la valeur de façon finale. Parce que vous savez, quand on fait un paiement par carte bleue, la vraie finalisation du paiement, ça peut prendre plusieurs jours.
C'est hyper complexe tout ce qui se
passe
derrière.
Voilà, exactement. Il y a une réconciliation qui doit avoir lieu et qui n'est pas du tout instantanée.
Plusieurs parties impliquées,
voilà,
etc.
Voilà, c'est-à-dire que le paiement peut être annulé une semaine après, on ne comprend pas trop pourquoi. Là, sur Lightning, on a vraiment une finalité du transfert de valeur de façon instantanée. Et à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes qui découvrent Bitcoin, je leur fais installer un petit wallet Lightning, ils sont, il y a ce wow effect.
C'est impressionnant. Là,
où ils rentrent, mais j'ai déjà reçu. Voilà,
c'est ça. En fait, les comptes sont réellement à jour au moment où le paiement est effectué.
Exactement.
Et c'est ça qui est hyper innovant sur Lightning et d'ailleurs qui fait que c'est un protocole de paiement qui est bien moins coûteux pour le particulier qui fait le paiement, mais aussi en fait pour tout en tant que système financier.
Exactement.
Globalement. Un peu pour parler des prospections futures un peu de Bitcoin. Alors peut-être première chose, on parle beaucoup des ETF spot de Bitcoin avec notamment BlackRock et plein d'autres qui ont suivi. Globalement, une adoption institutionnelle de Bitcoin. Est-ce que toi, tu vois ça comme quelque chose de positif ou de négatif ?
Je vais te surprendre. Je pense que c'est plutôt négatif, en fait.
Okay.
Alors, ce sera positif sûrement pour le prix, parce que...
L'offre est limitée, la demande...
C'est difficile de ne pas imaginer que le prix augmente, parce que j'imagine que BlackRock, s'ils arrivent, ce n'est pas avec 2 millions, quoi. Je crois que j'ai vu un tweet l'autre jour qui estimait qu'il y aurait un inflow, enfin un afflux d'environ 200 milliards à l'ouverture de l'ETF spot. Donc si on fait un calcul rapide, ben voilà, ça nous fait gagner 30% d'un coup. Mais après, ce sera du Bitcoin papier. Ce sera du Bitcoin papier, ce sera pas du vrai Bitcoin. Enfin, même si derrière, voilà, il y aura des intermédiaires, il y aura de nouveaux intermédiaires. Et puis ça limite Bitcoin encore à uniquement son potentiel d'investissement. Alors que, comme j'ai dit au début, on peut faire beaucoup plus de choses avec Bitcoin. Mais un des aspects positifs que je vois aussi, c'est que cette institutionnalisation va faire qu'il y aura moins de réticence pour le particulier de s'intéresser au sujet, tout simplement. Et là, je parle vraiment d'éducation. Donc, je pense que cette arrivée de nouveaux acteurs d'un éventuel ETF spot, hein, parce que moi je me souviens que les Winklevoss en 2013, ils avaient déjà demandé un ETF, hein, ils l'ont toujours pas eu. Donc,
c'est pas un nouveau sujet.
Après, c'est pas un nouveau sujet. Ça va forcément changer l'image, même qu'on a dans les médias, dans les grandes entreprises ou même les moyennes ou les ETI. Ça va faire évoluer tout ça. Mais après, il y a quand même un risque. Alors forcément, beaucoup de questions se posent sur le fait que si jamais un acteur comme BlackRock se retrouve à détenir trois fois plus que MicroStrategy, est-ce qu'il aura son mot à dire sur justement le protocole ? Est-ce qu'on va avoir des changements ? Donc, en tout cas, c'est intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, années. Ça va forcément changer des choses, bien ou en mal.
Tout gros changement, j'allais dire, c'est un peu le couteau à double tranchant ou les deux revers de la médaille, quoi. Donc, je te rejoins sur le fait que ça va certainement, en tout cas aux yeux du grand public, être gage de crédibilité. Mais ça soulève de nouvelles questions, donc...
Exactement.
Donc, c'est à suivre. Un sujet que je suis très curieux d'avoir ton avis dessus, parce que je sais qu'il est... tranché si je me trompe, un peu quand on voit l'évolution de Bitcoin, c'est rien de nouveau, il y a eu plein d'autres crypto-monnaies, et du coup moi quand je pense au futur de Bitcoin, je pense aussi au fait qu'il y ait plein d'autres crypto-monnaies, et il y en aura certainement des nouvelles, je pense, malheureusement ou heureusement. Pour toi, qu'est-ce qui différencie Bitcoin des autres crypto-monnaies, et pourquoi Bitcoin est unique, et pourquoi, je fais un peu la conclusion, parce que je te rejoins pas mal là-dessus, mais pourquoi c'est plus intéressant de se pencher sur Bitcoin ?
Oui, alors moi sur les réseaux sociaux, je suis assez connu comme étant un véhément Bitcoin maximaliste. Mais comme j'ai dit au début, je n'ai pas toujours été comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs types de maximalisme. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pense, nous les maximalistes, que Bitcoin est beaucoup plus intéressant que tout le reste et que tout le reste, c'est. Au mieux une distraction, au pire une énorme perte de temps. Moi, je suis plutôt du côté perte de temps, en fait, parce que j'imagine si toute cette énergie qu'on voit dans l'écosystème crypto avait été dirigée vers le projet qui compte vraiment, on serait peut-être plus loin aujourd'hui. Mais pourquoi je pense que Bitcoin est très différent de toutes les autres, c'est que toutes les autres, elles ont ce fameux problème qui est le problème que j'appelle du péché originel. Qui fait que dès le début, elles valent déjà de l'argent, que tout de suite on rentre dans la spéculation. Si on reprend un peu la genèse de Bitcoin pendant quasi 2 ans ne valait zéro en fait.
C'était du open mining, c'est-à-dire que tout le monde pouvait participer.
Voilà, et c'était vraiment un sujet de passionné quoi. Ça pourrit un peu la chose dès le début. Alors, il y a beaucoup de promesses technologiques. En fait, on est toujours dans une sorte de surenchère. Mais pour moi, c'est Bitcoin, c'est comme si on avait inventé la roue et que quelqu'un arrive et nous propose la roue avec des néons ou la roue avec des clous. Voilà. En fait, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Et je trouve qu'on aurait mieux fait d'innover au-dessus de Bitcoin, quitte à proposer tout ce que les gens essayent de faire avec les altcoins, plutôt qu'à chaque fois refaire une couche de layer 1, à chaque fois avoir un token qui va être tradé. Et au final, quand on regarde les cas d'usage réels en termes d'adoption de toutes ces crypto-monnaies, on n'est que sur du casino ou de la spéculation. Il y a des avancées technologiques, mais elles ne sont pas aussi spectaculaires que le consensus autonome distribué de Nakamoto, en fait, qui est vraiment, pour moi, vraiment le feu, quoi, l'invention qui fait que tout démarre. Donc au final, je pense que, en plus, Bitcoin, c'est une base solide, c'est une base en cours d'ossification, donc c'est vraiment une base sur laquelle on peut construire même plus d'innovation plutôt qu'à chaque fois réinventer la roue. Donc c'est vraiment mon problème avec les altcoins, que j'appelle personnellement shitcoin, mais c'est pas très poli. Mais du coup, voilà, c'est mon principal problème avec tout ça et l'univers crypto, Web3 en général.
J'allais dire, ce que j'aime bien dire aussi, moi, de mon côté, c'est Bitcoin, aujourd'hui, déjà, c'est le réseau le plus... Enfin, c'est la monnaie ou la crypto-monnaie qui a le plus gros effet de réseau, c'est celui qui est le plus décentralisé, le plus sécurisé. Et donc, toute potentielle innovation technologique, ça ne ferait pas de sens de ne pas la rattacher à Bitcoin, finalement. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, un peu notre point de vue sur Bitcoin. Du coup, vis-à-vis de ça, par rapport à ça, comment tu vois un peu l'évolution de Bitcoin là, dans les prochaines années? C'est quoi un peu d'ailleurs les choses qui t'excitent sur Bitcoin, que tu trouves intéressant?
En fait, il y a beaucoup de travail hein, sur Bitcoin, notamment sur les Layer 2. Il y a Lightning, mais il y a d'autres propositions de Layer 2. Je pense à Arc, notamment. Il y a même des Layer 3, hein, RGB, Taro. Tout ça, c'est des gros mots, mais c'est des technologies qui sont très jeunes et qui vont permettre de faire de nouvelles choses sur Bitcoin. Alors, encore une fois, sur Bitcoin, on est sur le temps long, hein, donc il va falloir...
C'est pas demain.
C'est pas demain, mais si on prend le Lightning, dont le papier a été introduit en 2016, je crois, on voit qu'aujourd'hui, on commence à avoir une adoption qui débute. Donc, on voit un peu le temps que ça prend. Et même sur Lightning, il y a plein de travail encore à faire. Donc, moi, je vois clairement tout ça évoluer. Et là où moi, je suis très bullish, comme on dit, c'est vraiment l'utilisation de Bitcoin comme un réseau de transfert de valeur, y compris pour transférer du fiat. Alors, c'est bizarre ce que je dis, mais l'idée, c'est de tokeniser du fiat qui va être transféré au bout de la planète en passant par le réseau Bitcoin, en fait. Et ça, je pense que c'est une idée qui est très compétitif par rapport à tous les tiers de confiance qu'on a, les Visa, les Western Union, toutes les banques, Swift. En fait, c'est très supérieur à tout ce qu'on a. Et donc, je pense que ça va arriver, non pas parce que les gens sont cypherpunk, mais parce que ça coûte beaucoup moins cher et que c'est beaucoup plus efficace.
Ok. C'est comme tu disais plus tôt, la conclusion, c'est tirer meilleure partie de tous les bénéfices de Bitcoin en potentiellement, à court terme en tout cas, résoudre le problème de volatilité sur Bitcoin.
Exactement.
Pour illustrer un peu ce que tu disais, ça serait par exemple envoyer moi des euros depuis la France et que quelqu'un aux États-Unis reçoit des dollars américains, mais en utilisant le protocole de Bitcoin pour que ça soit moins coûteux et plus rapide.
Exactement.
Encore dans cette vision future, mais pas si lointaine, on a parlé des CBDC.
Oui.
Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que tu trouves ça dangereux
La première question qu'on se pose sur les CBDC, c'est pourquoi? Pourquoi les CBDC? À quoi ça sert?
Sachant que moi, par exemple, je trouve que les monnaies... mon compte bancaire, il est entre guillemets déjà numérique.
Oui, mais c'est ça. C'est la première remarque que je dis, c'est que l'euro est déjà numérique. Et moi, j'ai un début de réponse. C'est qu'au départ, les premières évocations de CBDC, c'était lors de Libra, quand Facebook a voulu faire... Et donc, pour moi, c'était plus une réaction par rapport à un risque
de souveraineté monétaire.
Et que, bon, ils ont réussi à tuer Libra dans l'œuf, bon, ce qui était totalement prévisible. Moi, j'étais sûr que les États jamais n'allaient laisser Facebook.
Et je te coupe, excuse-moi, juste pour expliquer, Libra, c'est le projet donc, de Facebook de créer une monnaie qui allait être native à leur écosystème.
Exactement.
Pour que, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas tous les détails, mais que, par exemple, j'imagine les utilisateurs de Messenger et autres puissent
payer. De WhatsApp,
payer, voilà.
Envoie de l'argent, voilà. Donc ça, en fait, c'était vraiment une réaction, on va dire, puisque, parce que ça ne répond pas à un besoin réel, les CBDC, un besoin surtout des citoyens. Ça répond, à mon avis, à un besoin des banques centrales de rester à la page, en fait, et relevant, je ne sais pas comment on dit.
Ouais, pertinente.
Pertinente, merci. Et donc, aujourd'hui, maintenant que l'initiative de Facebook est tuée dans l'œuf, bah, qu'est-ce qu'il y a en face ? Il y a Bitcoin, en fait. Et donc, je pense que les banques centrales veulent offrir une espèce d'alternative à cette monnaie et se mettre en face avec ces CBDC. Mais au final, tout le monde craint la perte de vie privée, le flicage, la surveillance. Alors, ils ont beau dire que non, ils ne feront pas ça, mais on est obligé d'avoir peur un peu de tout ça. Et surtout, on ne voit pas à quoi ça nous sert. Vu qu'on a déjà PayPal, Lydia, des cartes bleues NFC, l'euro déjà numérique. Donc, ça nous sert à quoi, en fait ? Donc, c'est vraiment une question que je me pose.
Et les gens devraient... De toute façon, ce n'est pas une mauvaise chose de se poser les questions.
Oui.
Comme ça, les gens peuvent creuser. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien partager ça. Je trouve ça assez marrant et intéressant. La personne qui dirigeait le projet Libra chez Facebook est devenue...
David Marcus.
Je ne sais pas s'il est Bitcoin maximaliste, mais en tout cas, il travaille...
Ça y ressemble
exclusivement,
de plus en plus,
hein. Voilà, ça y ressemble de plus en plus, et il travaille aujourd'hui exclusivement sur Bitcoin. Donc j'utilise un peu ça pour dire, regardez un peu vers où les gens, vers où ça tend, quoi. Donc Bitcoin, c'est peut-être là qu'il faudrait creuser. Un peu pour conclure, puisqu'on arrive vers la fin de cet enregistrement du podcast. Pour toi, est-ce que presque une question un peu binaire, mais est-ce que Bitcoin est ou sera la monnaie du futur? Ou tu as parlé de étalon standard Bitcoin. D'un coup, je pense à ce que tu disais plus tôt.
Alors, pour moi, Bitcoin est déjà, pour ceux qui veulent s'en saisir, la monnaie du présent, en fait. Récemment, on a vu passer des transactions qui sont faites en Afrique pour acheter un poulet avec du Lightning ou en Amérique du Sud. En fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Bitcoin n'a d'utilité que pour celui pour lequel il résout un problème immédiat, égoïste, en fait. Et donc, je pense que l'avenir de Bitcoin, c'est vraiment... Alors, c'est pas forcément réjouissant, mais c'est parce que les monnaies fiat vont être à défaut, en fait, qu'on va se rendre compte qu'on perd son argent en gardant son argent en euros que Bitcoin va avoir de plus en plus de succès. Donc oui, pour moi, je suis assez optimiste sur le fait que Bitcoin soit la monnaie du futur, mais j'aimerais surtout dire qu'elle est déjà la monnaie du présent pour ceux qui veulent bien s'y mettre, en fait. Et le plus tôt on s'y met, le plus tôt... nous, on a déjà front-run BlackRock, en fait. Hein. on avait déjà compris ça avant eux. Donc il faut qu'on continue et il faut qu'on l'utilise, en fait. J'insiste là-dessus. Il faut vraiment qu'on prenne le sujet en main, à la fois dans la connaissance du protocole et aussi dans son utilisation tous les jours. Moi, je dépense mes satoshi dans un bar à Rennes pour acheter des planches de charcuterie et des bières très souvent. Je vais au maître kebabier à Paris payer mon kebab en bitcoin aussi. Mais donc, en gros, il faut vraiment qu'on le prenne en main parce que c'est déjà une monnaie aujourd'hui pour celui qui veut bien l'utiliser.
Bitcoin, j'allais dire, résout déjà un ou même des problèmes. Bitcoin a déjà son utilité pour des millions de personnes. D'ailleurs, les gens l'oublient parce que les gens aiment bien rester dans leur bulle.
Oui.
Mais Bitcoin est utilisé et résout des problèmes même très importants de survie, parfois pour plein de gens dans plusieurs pays. Donc moi aussi, j'invite les gens à se pencher dessus, à en détenir même très peu, si c'est ce qui permet de comprendre le fonctionnement. Sur ces belles paroles, ça va... terminer ce podcast. Je te remercie beaucoup, Gilles.
Non, c'est moi qui vous remercie.
C'est la fin avec grand plaisir. C'est la fin de ce troisième épisode des interviews de Comprendre Bitcoin. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous voudriez voir dans les prochains épisodes. Aussi, point super important, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On va sortir un podcast toutes les deux semaines. Au moins, vous serez notifiés. Mille merci à toi, Gilles, pour ton temps. Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Bon retour à Rennes. Tu prends ton train juste après. Et nous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.